Générique. Je n'ai jamais rougi, même devant les jeunes artistes de mon temps, de mon admiration pour Buffon. Pas le gardien du PSG, que j'apprécie beaucoup, soit dit en passant, mais pour ce peintre mécanique de la nature pompeuse. Seulement, aujourd'hui, ce n'est pas lui non plus que j'appellerai à mon aide. Non. Bien plus volontiers, je m'adresserai à Stern et je lui dirai « Descends du ciel ». Ou monte vers moi des champs élyséens pour m'inspirer en faveur des bons chiens, des pauvres chiens, un chant digne de toi, sentimental farceur, farceur incomparable. Reviens à Califourchon sur ce fameux âne qui t'accompagne toujours dans la mémoire de la postérité. Et surtout que cet âne n'oublie pas de porter, délicatement suspendu entre ses lèvres, son immortel macaro. Arrière la muse académique. Je n'ai que faire de cette vieille baudruche. J'invoque la muse familière, la citadine, la vivante, pour qu'elle m'aide à chanter les bons chiens, les pauvres chiens, les chiens éborgnés, ceux-là que chacun écarte comme pestiférés et pouilleux, excepté le pauvre dont ils sont les associés et le poète qui les regarde d'un œil fraternel. Fille du chien belâtre, de ce fa quadrupède, Danois, King Charles, Carlin ou Gredin, si enchanté de lui-même qu'il s'élance indiscrètement dans les jambes ou sur les genoux du visiteur, comme s'il était sûr de plaire, turbulent comme un enfant, sot comme un banquier, quelquefois hargneux et insolent comme un domestique. Fils surtout de ces serpents à quatre pattes, frissonnants et désœuvrés, qu'on nomme lévriers, et qui ne logent même pas dans leur museau pointu assez de flair, pour suivre la piste d'un ami, ni dans leur tête aplatie, assez d'intelligence pour jouer au domino. À la niche, tous ces fatigants parasites, qu'ils retournent à leur niche, soyeuse et capitonnée. Je chante le chien galeux, le chien pauvre, le chien sans domicile, le chien flâneur, le chien comédien, le chien dont l'instinct, comme celui du pauvre, du bohémien et de l'histrion, est merveilleusement aiguillonné par la nécessité. Cette si bonne mère, cette vraie patronne des intelligences. Je chante les chiens calamiteux, soit ceux qui errent, solitaires, dans les ravines sinueuses des immenses villes, soit ceux qui ont dit à l'homme abandonné, avec des yeux clignotants et spirituels, « Prends-moi avec toi, et de nos deux misères, nous ferons peut-être une espèce de bonheur. »
Let me my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people.
Où vont les chiens ? Disait autrefois Nestor Griffedo dans un immortel feuilleton qu'il a sans doute oublié lui-même et dont moi seul, et Auguste Blanqui peut-être, nous nous souvenons encore aujourd'hui. Où vont les chiens ? Dites-vous, hommes peu attentifs ? Ils vont à leurs affaires. Rendez-vous d'affaires, rendez-vous d'amour, à travers la brume, à travers la neige, à travers la meute, sous la canicule mordante, sous la pluie ruisselante, ils vont. Ils viennent, ils trottent, ils passent sous les voitures, excités par les puces, la passion, le besoin ou le devoir. Comme nous, ils se sont levés de bon matin et ils cherchent leur vie ou courent à leur plaisir. Il y en a qui couchent dans une ruine de la banlieue et qui viennent, chaque jour, à heure fixe, réclamer une pluie de Frolix ou de Purina spécial chien claqué à la porte de la cuisine du grand monarque. D'autres qui accourent par troupes de plus de 50 kilomètres pour partager le repas que leur a préparé la charité de la République, son cœur inoccupé s'est donné aux bêtes parce que les hommes imbéciles n'en veulent plus. D'autres qui, comme des jeunes diplômés ambitieux, affolés d'amour, quittent à de certains jours leur département pour venir à la ville, gambader pendant une heure ou deux pour faire leur toilette, fiers et reconnaissants envers leur maître. Et ils sont tous très exacts, sans carnet, sans iPad, sans notes et sans portefeuille. Connaissez-vous la paresse ? Et avez-vous admiré, comme moi, les samedis de grasse matinée, le jour du marché, tous ces chiens vigoureux attelés au stand du boucher, de la laitière ou du boulanger, et qui témoignent, par leurs aboiements triomphants, dès qu'on approche, trop près, du plaisir orgueilleux qu'ils éprouvent à rivaliser avec les loups. En revanche, permettez-moi de vous introduire dans la chambre de deux autres, restés dans le dénuement volontaire et qui appartiennent à un ordre bien plus civilisé des saltimbanques anonymes. Un lit en bois peint, sans rideaux, des couvertures traînantes et souillées de punaises, deux chaises de paille, un poêle de fonte, un ou deux instruments de musique détraqués. Oh, le triste mobilier ! Mais regardez, je vous prie, ces deux personnages intelligents. L'un, habillé de vêtements à la fois éraillé et somptueux, coiffé comme un troubadour. Le second, la truffe près du tapis et l'œil militaire qui surveille, avec une attention de sorcier, l'œuvre sans nom qui mitonne sur la plaque allumée et au centre de laquelle une longue cuillère se dresse, plantée comme un de ces mâts aériens qui annonce la maçonnerie achevée. N'est-il pas juste que de si zélés comédiens ne se mettent en route sans avoir lesté leur estomac d'un puissant mitonné bien solide? Et ne pardonnerez-vous pas un peu de sensualité à ces pauvres diables qui ont à affronter tout le jour l'indifférence du public et les injustices d'un directeur de théâtre qui se fait la grosse part et mange à lui seul plus que quatre comédiens, s'auto-photogratifiant devant son assiette pour le poster sur l'Instagram?
Todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho, y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho, y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Te dejo el corazón que un día te entregué, me voy con mi dolor, no sé si volveré. Cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé. Viviré con mi soledad amargado y triste, sin guardar rencor por tu falsedad ni lo que me hiciste. Sigue tú feliz que ya nunca más volveré contigo, pero si otro amor te hiciera sufrir, yo seré tu amigo. Siempre viviré con mi soledad amargado y triste, sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste. Sigue tú feliz que ya nunca más volveré contigo, pero si otro amor te hiciera sufrir, yo seré tu amigo. Te dejo el corazón que un día te entregué, me voy con mi dolor, no sé si volveré. Cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé. Cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé.
Que de fois j'ai complanté. Que de fois j'ai contemplé, souriant et attendri, tous ces philosophes à quatre pattes, esclaves complaisants, soumis ou dévoués, que le dictionnaire pourrait aussi bien qualifier d'officieux si la République, trop occupée du bonheur des hommes, avait le temps de ménager l'honneur des chiens. Et que de fois j'ai pensé qu'il y avait peut-être, quelque part, qui sait, après tout, pour récompenser tant de courage, tant de patience et de labeur, un paradis spécial pour les bons chiens, les pauvres chiens, les chiens qui ne sont rien et désolés. Philippe Solex affirme bien qu'il y en a un pour les historiens et un pour les Suisses. Les bergers de Virgile et de Théocrite attendaient, pour prix de leurs champs alternés, un bon fromage, une flûte du meilleur faiseur, ou une chèvre aux mamelles gonflées, tel un magnifique tyran italien du bon temps, offrait au divin arétin soit une dague enrichie de pierreries, soit un manteau de cour en échange d'un précieux sonnet ou d'un curieux poème satirique. Le poète qui a chanté les pauvres chiens, lui, a reçu pour récompense un beau gilet, d'une couleur à la fois riche et flânée, qui fait penser au soleil d'automne, à la beauté des femmes mûres et aux étés de la Saint-Martin. Aucun de ceux qui étaient présents dans la taverne de la rue Villa Hermosa n'oubliera avec quelle pétulance le peintre s'est dépouillé de son gilet en faveur du poète, tant il a bien compris qu'il était bon et honnête de chanter les pauvres chiens. Mais aujourd'hui, toutes les fois que le poète endosse le gilet du peintre, il est contraint de penser au bon chien, au chien philosophe. Il rentre à la niche pour sa gamelle. Et il se fout bien des étés de la Saint-Martin et de la beauté des femmes et de la nature. Il n'y a plus d'artistes. Ils se sont tous transformés en bons chiens. Pour les autres, que vivent toujours la liberté d'être un pauvre chien. Un pauvre chien avec une seule tranche de pain dans le frigo, mais avec l'âme belle, sans peur d'affronter la faim.
I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want it to turn black. Oh, I see the girls walk by just in their summer clothes. Oh, I've got to turn my head before the darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black with flowers and my love both never to turn back. Oh, I see people turn their heads completely, oh, they look away. Hey, like a newborn baby, it's gotta happen every day. Flowers and my love, never to turn back. Oh, I see people turn their heads, how quickly all they look away. Hey, like a newborn baby, it's gotta happen every day. Hey, baby, you gotta believe me, yeah. When I say, yeah.
Il y a quelques années, exactement 9 années, 1 mois et 5 jours, la veille de Pâques, au matin, Vincent Blabla, dit Castagnette, qui fait le service des messageries entre la gare du Mans et le village de Champs-aux-Folles, où j'habitais alors, me livra, venant de Londres, une boîte. De sapins grossièrement barbouillés de noir, son couvercle percé de 2 ouvertures grillagées, cette boîte avait un aspect de ces consternants emballages dans lesquels Mamazon expédie leur pivoine en Europe. Pendant que j'examinais avec méfiance ce curieux objet, Vincent Blabla, dit Castagnette, me présenta une feuille et une sorte de registre ouvert. « Tenez, signez-la, » fit-il. « Le port est payé, tout est payé. Moi, avec votre permission, je vais dire 2 mots à la cuisinière, hein ?» Il me laissa ses paperasses, bien que la journée commençât à peine, il était déjà très gai. Pas tout à fait ivre, mais en bonne voie de le devenir. « Oh !» se rappela-t-il soudain, « j'ai encore pour vous là-bas, à la gare, des poules. Ma foi oui, 3 forts paniers, vous savez, et pas de place sous la bâche. Ma foi non, Je vous les apporterai ce soir, ou demain. Ah, sapristi, pas demain, c'est cac. Enfin, un de ces jours. J'ai recommandé au chef des bagages de leur donner à boire et à manger. Un bon garçon. Je lui offrirai sur votre compte un petit verre, pour la peine. Pas vrai? Ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiétais pas. Du moins, je m'inquiétais pas de cela. Fasciné par cette étrange boîte, je cherchais ce qu'elle pouvait bien contenir. Et vraiment, je ressemblais à ce manifestant qui, ayant reçu par hasard une lettre, la considère avec terreur, la tourne, la retourne, la soupèse dans sa main, la montre à tous ses voisins et s'écrie « Tiens, tiens, qu'est-ce qui m'envoie une lettre ? Ah bon sang, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ?» et ne se décide pas à l'ouvrir. Moi non plus, je ne pouvais pas me décider à ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans. La feuille d'envoi mentionnait bien ceci. Chien vivant. En plus de mon nom et de mon adresse, elle n'indiquait que le nom et l'adresse de la maison anglaise de messagerie chargée de l'expédition. Rien d'autre. Rien d'autre que des rangées de chiffres en diagonale, ici et là, des opérations d'arithmétique auxquelles je ne comprenais rien. Et puisque tout était payé, sans doute, c'est ce qui me paraissait le plus louche. De qui me venait ce chien? Et pourquoi un chien? Un chien qu'on insistait à qualifier de vivant? Quelle bêtise! Je me pris à crier tout à coup en levant les bras au ciel. Il n'eût plus manqué, parbleu, que ce chien fût un chien mort. J'étais intrigué, un peu énervé. Enfin, je n'avais commandé de chien à personne. Je n'en attendais de personne. Je n'en voulais de personne. Certes, un de ces merveilleux chiens d'Irato en porcelaine blanche. À la bonne heure. Mais un vrai chien, un chien en chair et en os.
Caliente, yo la seguiré bailando, las espermas van llorando, el brazo me va pringando, todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando.
Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango, ahí le grito una negrita que solita está bailando.
Le couvercle de la boîte, je n'étais pas très rassuré. Les outils tremblaient dans ma main. Bientôt, j'aperçus, grisant sur de la paille hachée, sorte de boule fauve et molle, un très jeune chien, ou plutôt un tout petit chiot, si petit, si jeune, qu'il n'avait pas la force de se tenir sur ses pattes. Je le délivrai de son cachot, qu'il était grotesque à voir. Figurez-vous, un museau de vieux petit énarque, tout plissé, de mauvaise humeur, une tête beaucoup trop grosse, beaucoup trop lourde pour le corps. Un corps vaguement ébauché, les yeux à peine ouverts, à peine visibles dans la fente des paupières boursouflées. Sur le ventre rose, plein, glabre, tacheté de roux, un reste séché de cordon ombilical se tortillait comme un ver. Un chien au maillot, si j'ose m'exprimer ainsi. J'étais furieux. Soit ironie, négligence ou routine, l'expéditeur, en guise de provision de bouche pour le voyage, peut-être en guise de hocher, avait dérisoirement placé, à portée des dents et des pattes du pauvre animal, qui ne pouvait jouer ni manger, et qui d'ailleurs n'avait pas de dents, un formidable os de gigot, luisant comme un morceau d'ivoire, et une énorme tranche de pain aussi dure que du ciment. Il paraissait affamé, et plus encore qu'affamé, indigné par l'inconvenance d'un régime alimentaire tel qu'on le pratique dans les maisons de bienfaisance. Dois-je noter, pour compléter la comparaison, que des parois et du fond de la boîte s'exhalait une odeur écœurante de lait aigre, particulière aux enfants charitablement élevés dans les crèches. Dès que je lui caressais, oh, bien timidement, et cela me fut désagréable, car j'ai une répulsion physique invincible pour les nouveau-nés. Il se mit à trembler, puis à pousser des plaintes et des cris de protestation. Des cris de protestation, je dis bien. Cette précocité si rare m'éveilla. Respectueusement, je le déposai sur le sol, où ses cris redoublèrent. Et vraiment, je ne pus m'empêcher de rire de ses mines revendicatrices, de son tapage irrité. Croyez bien qu'il n'y avait nulle moquerie, en dépit du ridicule équipage dans lequel m'arrivait ce petit pensionnaire, mais de la sympathie et de l'admiration pour lui. Je l'avoue, l'idée seule que cet embryon protesta déjà, et si spontanément et sans aucune littérature, contre la stupidité, la malignité, la malpropreté des hommes, ou contre leurs caresses, m'enflamma. Oui, j'avoue que ce caractère, en quelque sorte prévital, me réjouit, et fit que je m'intéressais davantage au sort de cet être larvaire qui, encore noyé dans les limbes et sans l'avoir jamais vu, allait entrer dans le monde avec une conception de l'humanité si parfaitement conforme à la mienne. Spectacle émouvant et nouveau. Un savant, je dis bien entendu un vrai savant, qui en eût été le témoin averti, n'eût point manqué d'écrire sur son carnet de notes cette observation psychosystématique capable de révolutionner toutes nos idées sur les chiens et aussi, je pense, sur les hommes. Le chien naît misanthrope. Alexei était au platine. C'était les abeilles.